Connaissez-vous Pentatonix ? Je ne parle pas d'un éventuel personnage d'Astérix, je parle de ce groupe de chanteurs a cappella, Pentatonix, parce qu'ils sont cinq. Eh bien, l'évangile selon Matthieu a une structure pentatonique, puisqu'il contient cinq grands discours de Jésus, et que Matthieu signale chaque fois à la fin, après avoir prononcé ses paroles. Jésus poursuivit son ministère. Et beaucoup pensent que puisqu'il vise un auditoire juif, cette structure pentatonique, ces cinq grands discours, reflètent les cinq livres de Moïse, qu'on appelle le Pentateuch. Et Matthieu veut montrer que Jésus est comme un meilleur Moïse, un plus grand Moïse, un prophète, mais plus qu'un prophète, un libérateur, plus grand que Moïse, un législateur, mais plus grand que Moïse, puisqu'il est le Fils de Dieu, il est Dieu. Et nous étudions en ce moment dans notre église le premier de ces cinq grands discours qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu. Ce discours se trouve dans les chapitres 5, 6 et 7. On l'appelle souvent le sermon sur la montagne. Mais justement, le fait que ça soit sur une montagne rappelle le moment important pour le peuple de Dieu où Moïse a donné les 10 commandements sur la montagne, les 10 commandements qui nous ont été lus tout à l'heure ce matin. Moïse était monté sur une montagne pour recevoir les 10 commandements qu'il a donnés au peuple. Et Jésus, ici dans l'évangile de Matthieu, c'est important que lui aussi monte sur une montagne et il prononce ce discours qui en quelque sorte, sera sa loi à lui. Moïse avait donné une loi, Jésus va donner sa loi à lui, les règles de son royaume. Nous avons entendu les règles de Dieu dans les 10 commandements, et Jésus va sur ce sermon de la montagne, pour montrer qu'il est plus grand, plus important que Moïse, va donner sa loi à lui, ses règles à lui. Et beaucoup diraient que ce sermon sur la montagne représente la meilleure articulation de l'éthique, de la justice de tous les temps. Donc c'est magnifique. Nous allons lire une bonne partie ce matin du sermon sur la montagne. Je vous invite à chercher Matthieu chapitre 5 à partir du verset 17. On va lire une grande partie. Et ma prière, c'est que déjà au-delà de ce que je peux dire par la suite, vous êtes touchés par les paroles de Jésus qui seront bien mieux que tout ce que moi je peux dire. Mais c'est vraiment une prédication de Jésus qui est prononcée ici. Donc si vous voulez suivre avec moi, vous pouvez avoir votre Bible sous les yeux ou sur votre téléphone dans une barre de recherche. Vous tapez Matthieu 5. Bible, français, nouvelle édition de Genève, et vous aurez la même version que moi, et ce sera aussi affiché derrière moi pour suivre ensemble. Puisque la lecture sera un peu plus longue que d'habitude ce matin, Matthieu 5, verset 17. Nous avons déjà étudié le début, les béatitudes, et Jésus enchaîne maintenant, verset 17. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère Raca mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier quadrant. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne parjureras point, mais que tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. » Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, ni parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et nous reprenons en chapitre 7, à partir du verset 12, pour terminer ce sermon sur la montagne. Voici comment Jésus résume les règles de son royaume. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, cueillant des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, et un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi quiconque entende ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entende ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe. Donc nous avons dans ce sermon sur la montagne, nous avons les règles du roi, les règles de son royaume. Nous avons les règles de justice. Et pour vivre dans son royaume, pour même entrer dans le royaume, Jésus se soucie de son souci, c'est que les gens entrent dans son royaume et qu'ils n'aillent pas dans la géhenne, dans l'enfer, mais qu'ils entrent dans son royaume et ils donnent les règles de son royaume. Jésus donne ici à quoi ressemblent ou devraient ressembler les citoyens de son royaume, les sujets de son royaume. Donc voyons ce matin si ces règles régissent nos vies, si nous avons la justice requise pour entrer et vivre le royaume de Dieu. Et nous allons voir que ces règles, tout d'abord, elles coupent court à nos manœuvres pour contrôler la justice. Ensuite, nous allons voir qu'elles creusent les véritables motivations de notre justice. Et enfin, elles conduisent au seul fondement de la vraie justice. Tout d'abord, elles coupent court à nos manœuvres pour contourner la justice. Une grande partie du chapitre 5 que nous avons lu ce matin suit le même schéma où Jésus dit « Vous avez entendu dire ceci ». En général, il cite un des 10 commandements. Et puis, il dit « Mais moi, je vous dis ». Déjà, notez la manière étonnante que Jésus parle. La Bible vous dit, l'Ancien Testament vous dit, mais moi je vous dis. Ceci, il se prend pour l'auteur de la Bible, il se prend pour plus grand que la Bible, il se prend pour Dieu, ce qu'il est. Et on a quelques remarques tout au long de ce serment qui nous étonnent, mais Jésus dit, moi je vous dis. À la fin, quand il s'agit de décider qui entre ou pas dans le royaume des cieux, il dit, moi je dirais, retirez-vous de moi. Il a le droit de faire ça, oui, parce qu'il est le roi, il est le juge. Mais dans ce chapitre 5, il donne 5 exemples concrets tirés de la Pentateuque, tirés de la loi de Moïse, qui sont devenus, pour les spécialistes de la loi, les experts en théologie, ce sont devenus des occasions de manœuvrer, de manigancer, pour obéir à la lettre de la loi, mais pas à l'esprit. Donc les 5 ou 6 exemples qu'il donne, c'est le meurtre, l'adultère, les serments, la rétribution et l'amour du prochain. Et il va montrer qu'ils ont pris la loi et ils ont réussi plus ou moins à se donner une raison pour faire tout le contraire. Quand vous conduisez sur la rocade, c'est limité à 90, je crois. Qu'est-ce qui est pire aux yeux de la loi? Vous faites tout le tour de la rocade à 93 où vous roulez à 135, et juste devant le radar, vous ralentissez à 80, et après le radar, vous repartez. Qui est innocent et qui est coupable? En fait, c'est ça. Le serment sur la montagne expose de manière radicale cette façon très humaine de fonctionner sur l'ensemble des questions éthiques. Avouons que nous sommes assez doués pour nous convaincre que nous obéissons les règles tout en faisant le contraire de ce que Dieu veut. Donc je prends d'abord les 3 exemples qui concernent l'amour du prochain, tu ne tueras point, œil pour œil, et tu aimeras ton prochain. Regardez comment les hommes, à partir d'une loi bonne, la loi de Dieu, ont réussi à faire tout le contraire. Il prend l'exemple d'abord, vous avez entendu dire, tu ne tueras point. Alors c'est très classique chez les hommes, quand on réfléchit à des questions d'éthique, et quand on se pose la question, suis-je quelqu'un de bien et je dois d'entrer dans le royaume de Dieu, dans le paradis, la première chose qui vient en tête, voilà, je n'ai tué personne, donc ça va. Je suis quelqu'un de bien. La règle dit, tu ne tueras pas. Donc là, je comprends, je n'ai pas le droit de tuer. Mais ça veut dire que j'ai le droit de l'insulter, j'ai le droit de détruire quelqu'un avec ma parole, j'ai le droit de penser des mauvaises pensées à lui. Tant que je ne l'ai pas tué, tout va bien. Mais ça, c'est juste passer à 80 quand le radar est là et puis vivre autrement. Cette semaine, à table, on lisait un peu questions-réponses sur une articulation de la foi et on était touché par cette interprétation réelle que donne Jésus de la loi de Moïse. Que veut dire finalement le 6e commandement, tu ne tueras point? Et Jésus nous aide dans ce serment sur la montagne à comprendre le vrai sens de la loi de Dieu. Et donc la réponse, que Dieu veut-il dans le 6e commandement? Que je n'insulte, ne haïsse, n'offense ou ne tue pas mon prochain par mes pensées, mes paroles, mon comportement ou encore moins par mes actes, mais que je me dépouille de tout désir de vengeance. Je ne dois pas non plus me nuire à moi-même ou m'exposer témérément au danger. C'est aussi pourquoi le magistrat porte l'épée pour s'opposer au meurtre. c'est une belle articulation de finalement le sens, le cœur de ce que veut Dieu dans sa loi. Mais les hommes, nous souvent, nous recherchons le minimum syndical, je n'ai pas tué, donc tout va bien. La même idée dans œil pour œil et dent pour dent, un peu plus tard, Jésus rappelle, ce principe était donné dans la loi pour empêcher une exagération, que la vengeance s'escalade et ou que le système de justice devient trop brutal. Donc le principe est là pour donner un cadre à la justice, mais les hommes ont trouvé, ah tiens, si quelqu'un me fait du mal, je peux répondre par le mal. On me tape, je peux taper en tour. Donc le principe n'est pas pour les... Le principe, c'est pour la justice, ce n'est pas pour nos relations personnelles de tous les jours. Et les gens ont réussi à se justifier un comportement violent en disant, lui m'a fait du mal, je lui ai fait du mal en retour. Donc toute la Bible rappelle, non, il ne faut pas répondre au mal par le mal, il faut répondre par le mal, par le bien, par la grâce, par la douceur. Et même dans les cas où certains lisent ce verset, œil pour œil, dent pour dent, donc tu dois, si quelqu'un te frappe sur la joue, tu dois attendre l'autre jour, on dit, mais c'est... Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est radical. Est-ce qu'il est en train de, par exemple, légitimiser les violences conjugales? Et la réponse est non. Comme dit, on n'oublie pas que Jésus ne défait pas les systèmes de justice, le magistrat, la police, l'épée qui est là pour juger. Donc quand il y a des cas de violence, parfois la bonne réponse, c'est au lieu de répondre par la violence, c'est de faire intervenir les autorités compétentes, par exemple. Mais c'est une manière de... c'est une manière de réagir au mal, pas par le mal, mais par le bien. Et enfin, l'autre exemple qu'il donne concernant l'amour du prochain, c'est intéressant, et verset 43, il dit, vous avez été appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'est intéressant parce que ce n'est pas ce que dit la Pentateuque, ce n'est pas ce que dit la loi de Moïse. Le verset en Lévitique dit, tu aimeras ton prochain toi-même, c'est tout. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et les spécialistes de la loi ont dit, ah, c'est intéressant, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Notre prochain, donc, c'est forcément quelqu'un de notre peuple, par exemple. C'est, visiblement, Dieu ne parle pas des étrangers ou des ennemis, ce ne sont pas nos prochains. Donc, quand ça dit tu aimeras ton prochain, ça veut dire qu'on peut haïr son ennemi. C'est-à-dire, visiblement, tu es obligé d'aimer ton prochain, mais tu peux ne pas aimer celui qui n'est pas ton prochain. Mais à partir de là, vous voyez bien, le cœur humain est capable de... C'est assez facile de se convaincre que n'importe qui n'est pas vraiment mon prochain. Même quelqu'un qui est même, finalement très très proche. Ah, il est différent, il ne pense pas comme moi, ou on n'est pas de on n'a pas des parcours différents, donc ce n'est pas vraiment mon prochain, je peux le haïr. Je peux aimer ce qui me ressemble vraiment, mais ce qui ne me ressemble pas, la Bible dit. Mais non, le cœur de la loi, le cœur de la phrase, tu aimeras ton prochain, je vais expliquer que ton prochain, parfois, la personne il peut surprendre le fait qu'il est là et il est, même s'il est différent que toi, il est aussi ton prochain et quelque part ça inclut tout le monde. Donc vous voyez, avec un peu de manœuvrement sur le mot et de sens des mots, un commandement qui dit qu'il faut aimer, on arrive à lui faire dire qu'il faut haïr. Mais ça, c'est notre manière de manœuvrer pour contourner la vraie justice de Dieu. Pareil pour l'adultère, il va passer aussi à l'adultère, et Jésus est assez radical encore une fois. Tu ne commettras pas d'adultère, mais Jésus, ce qu'il veut, c'est pas d'adultère, ni même dans les pensées, et nulle part en fait, il veut l'adultère. Et tout comme la colère est un meurtre dans les pensées, la convoitise est un adultère dans les pensées. Et quand il le dit, nous reconnaissons en fait qu'il a raison. Jésus nous appelle à être radical pour préserver les liens du mariage. Donc il ne veut pas d'adultère, ni par les pensées, ni par la pratique du divorce. Et donc il donne... Il parle déjà de la convoitise et puis il parle de divorce. Dans les deux cas, je pense qu'il veut préserver le mariage de l'adultère. D'abord, il nous appelle à être radical pour écarter les sources de convoitise. Donc, encore une fois, il ne veut pas qu'on dise, tant que je ne commets pas d'adultère, mais physique, mais dans mes pensées, devant un écran d'ordinateur, tout ça, peu importe. Non. Jésus veut jusqu'aux racines, jusqu'au plus profond de naître, il ne veut pas d'adultère. Ensuite, il nous appelle à être radical pour préserver les liens du mariage. Et en fait, dans le système qu'ils avaient mis en place, les scribes, le recours facile au divorce, pour Jésus, c'est juste une manière de légaliser le divorce. Ou légaliser l'adultère, je veux dire. Parce que dans la loi de Moïse, ça disait, tu lui donneras une lettre de divorce, il dit. Mais quand vous regardez le contexte de la loi de Moïse, l'époque, la lettre de divorce est une manière de freiner les divorces, sauf pour adultère, donc c'est une protection pour la femme, même coupable, et une manière de moins tendre la grâce pour qu'elle puisse reconstruire sa vie. Mais Jésus voit bien qu'une loi qui était censée protéger les femmes et freiner les divorces devienne, après quelques manœuvres pharisiens, une façon d'encourager le divorce pour légaliser l'adultère. Et Jésus dit non, divorce uniquement en cas d'adultère, sinon le reste, je ne veux pas. Ensuite, Jésus passe au serment. C'est très intéressant, les serments, là, toute la question de l'honnêteté. Il dit, vous avez entendu dire que tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement. En fait, c'est vrai que l'Ancien Testament prévoyait des vœux, des engagements personnels envers Dieu. Vous promettre à Dieu de faire quelque chose. Mais les scribes ont trouvé l'astuce pour justifier la malhonnêteté courante par un langage très spirituel, très solennel. C'est-à-dire, si tu dis je te jure par le temple, ou là, tu dois être plus ou moins honnête. Mais si tu ne dis pas la formule je te jure par le temple, ou là, il y a une marge de manœuvre. C'est tout comme nous, les enfants, les doigts croisés derrière le dos. Tu n'es pas obligé de dire la vérité, et si oui, tu es obligé de dire la vérité. Mais fonctionner comme ça dans une société, malheureusement, notre société plus ou moins fonctionne comme ça. C'est-à-dire, on a des cadres où il faut vraiment être honnête. Voilà, lettre recommandée, signature là, il faut être honnête. Mais sinon, ce qui est dit oralement, on ne se tient pas vraiment. Mais et toute la société, quand toute la société fonctionne comme ça, c'est un problème. Donc Jésus demande simplement l'honnêteté partout. Pas un cas où dois être honnête et un autre cas où l'honnêteté n'est pas importante. Et même Emmanuel Kant est d'accord avec ça, parce que c'était tout aussi il n'y a pas si longtemps, et encore aujourd'hui, je te jure sur le tombeau de ma sainte tante, là c'est vrai, mais sinon on ne dit pas. Et donc on s'habitue, même entre amis ou même entre sociétés, si on ne dit pas je te jure... on ne peut pas faire confiance, mais Emmanuel Kant dit l'un des effets néfastes des serments est que l'importance accrue qu'il leur a accordée sanctionne presque le mensonge courant. C'est de tout le reste de notre discours. Est-ce que peut-on le croire ou pas? Et c'est malheureux, une société qui fonctionne comme ça. J'ai trouvé dans un commentaire sur ce passage très intéressant, même dans le cadre spirituel, on a entendu ce commandement, tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Et des fois, il y a une manière pour nous de balancer le nom de Dieu un peu partout pour donner un peu plus de sérieux à notre manière de fonctionner. Mais est-ce que ce n'est pas une manière de séparer entre des cas où je dois être vraiment honnête et des cas où ce n'est pas important? Voici la citation. « Ces clartés du oui ou du non signifient également qu'il y a quelque chose de malveillant dans tout discours artificiel qui cherche à impressionner par son érudition, son intelligence ou même son dévouement. Lorsque le langage de nos cultes est simple, sincère et dépourvu de références mielleuses à la divinité, la vie de la congrégation sera plus agréable à Dieu et plus honnête envers les gens. » Je prends un exemple, vous savez, il y a une manière de parler, je pense que ça glisse, même chez nous évangéliques, où on met par exemple « Dieu voulant à tout ». « Je serai à l'heure au travail, Dieu voulant. » Dieu voulant, je serai à l'église dimanche. Vous imaginez devant le maire lors d'une cérémonie de mariage, monsieur l'époux, vous prenez un tel pour épouse. Oui, Dieu voulant. Est-ce que c'est vraiment plus spirituel, plus mature dans nos engagements d'ajouter Dieu voulant partout? Ou est-ce que c'est une manière quelque part de se déresponsabiliser? Si je suis en retard, ce n'est pas ma faute, c'est la faute de Dieu. Oui. Dieu voulant, je serai à l'heure. Peut-être juste dire oui, je serai là. Donc vous voyez, Jésus donne tous ces exemples que finalement, lorsqu'il les dit, nous sommes assez convaincus qu'il dit juste. C'est-à-dire, nous voyons bien que nos manœuvres, en fait, ce n'est pas pour une plus grande obéissance, ce n'est pas pour une plus grande maturité. Nos manœuvres, c'est pour finalement faire tout le contraire de ce que Dieu veut. Et on arrive à donner une façade d'obéissance, mais le cœur n'y est pas. Et ça, c'est un problème. À la fin du chapitre, ils disent « Soyez donc parfaits comme votre céleste est parfait ». Il y a un sens où cette perfection-là, c'est une maturité parfaite dans l'éthique. Ce que Jésus veut, c'est une éthique mature, parfaite. Et il vient de nous donner une éthique mature et parfaite. Ce sera un amour profond pour notre prochain. Même quand le prochain, c'est l'ennemi. Même quand le prochain, c'est le coupable. Même l'ennemi, le coupable, pourrait bénéficier d'une bonté, d'une justice. Et aujourd'hui, même en général, les systèmes d'éthique humaine reconnaissent que oui, même l'ennemi, même le coupable, même l'accusé bénéficie d'une bonté, pas d'une vengeance. Donc, une éthique mature serait un amour profond dans nos relations pour notre prochain, une fidélité radicale dans le mariage et toute la sexualité, hein, et puis une honnêteté constante. Imaginez une société qui, un royaume qui fonctionnait comme ça. Et même aujourd'hui, on reconnaît que oui, une société qui fonctionne comme ça est pertinente. À la fois, c'est radical. À la fois, c'est ce qu'on aimerait au fond que les gens fassent pour nous. On ne veut pas que les gens, eux, manœuvrent face à nous. Tant qu'il ne m'a pas tué, ça, c'est bon. Non, on aimerait savoir que même dans ses pensées, il n'y a pas de la haine. Ah, le regard convoiteur, ça ne me gêne pas au travail. Si, le regard convoiteur, pas bon. Et vous le savez. Donc, quelque part, c'est ce qu'on veut que les gens fassent pour nous. Et donc, c'est pertinent quand Jésus dit, fais aux autres ce que vous aimeriez qu'ils te fassent. Et c'est ce qu'on aimerait que Dieu fasse pour nous. On aimerait que Dieu ne pratique pas ces manœuvres. On aimerait que Dieu, nous-mêmes, il nous tende cet amour. Qu'il ne nous haïsse pas en tant que son ennemi. On est content qu'il nous aime. On est content qu'il est honnête envers nous. Imaginons qu'on arrive au ciel. Ah, j'avais les doigts croisés derrière mon dos quand j'ai dit que je te sauverai par la foi. Ah, c'était une blague. Dieu voulant, mais je n'ai pas voulu. C'est pas ce qu'on aimerait qu'on entende de sa part. Donc, toute cette éthique qu'articule Jésus, il est très pertinent et il creuse profondément. Je vais avancer maintenant. Et l'éthique de Jésus, les règles de son royaume, aussi creusent les véritables motivations de notre justice. Donc, elle coupe court à nos manœuvres pour éviter. Mais Jésus va aller plus loin et creuse les véritables motivations de notre justice. Le chapitre 4, c'est le problème des mauvais comportements. La haine, l'adultère, les méchancetés. Le chapitre 6, c'est le problème des bons comportements. Après avoir parlé de la relation avec les autres, Jésus parle de notre relation avec Dieu, la piété, dans le chapitre 6. Je n'ai pas tout lu, mais il va parler de l'aumône, la prière que nous avons étudiée en cellule, et puis le jeûne. C'est-à-dire, il évoque des pratiques religieuses qui expriment la piété et la foi. L'aumône, la prière, le jeûne. Pour les Juifs, ces choses définissaient une grande partie de leur piété. Pour l'islam, c'est 3 des 5 piliers encore aujourd'hui. Mais Jésus, il révolutionne ces pratiques en disant que c'est la motivation qui est tout. Donc il y a le problème des mauvais comportements, chapitre 5, mais il y a aussi le problème des bons comportements, chapitre 6. Et Jésus, selon Jésus, en fait, toutes les expressions de la foi visible, toutes les disciplines spirituelles, que ce soit prier, jeûner, faire l'offrande, on peut ajouter tout le reste de la vie d'église, chanter, servir. En fait, toutes peuvent être pratiquées de manière hypocrite, manipulatrice, pour nous éloigner de Dieu. Et ça, c'est une règle encore radicale. Ah. Je croyais l'avoir mis, j'ai oublié. J'ai trouvé une citation intéressante dans un roman qui dit « Si vous faites quelque chose de bien, après un certain temps, si vous ne faites pas attention, vous commencez à vous donner des airs. Alors, vous n'êtes plus quelqu'un de bien. Si vous faites quelque chose de bien, après un certain temps, si vous ne faites pas attention, vous commencez à vous pavaner, à vous donner des airs. Et alors, vous n'êtes plus quelqu'un de bien. Donc, et Jésus met en garde comme ça, mais soyons honnêtes, nous nous retrouvons tellement facile ici. L'image presque comique pour Jésus pour décrire cette manière d'être, c'est sonner la trompette avant de faire quelque chose. Verset 2. Lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette devant toi. Parce que littéralement, les pharisiens ne se promenaient pas avec une trompette pour le faire, mais il y avait une attitude, une manière d'être qui sonne la trompette. On s'arrange pour être vu de certains. On se garde bien de cacher d'autres aspects de notre vie, mais on sonne la trompette. Comme disait Lloyd-Jones, nous sommes même capables de sonner la trompette sur le fait que nous ne sonnons pas la trompette. Et il donnait un exemple. Il y avait un moment dans l'œuvre missionnaire, dans les missions, beaucoup de missions sont nées sur le principe on ne fait pas des appels de dons ostentatoires. On ne demande pas l'argent comme ça. On vit par la foi. Et donc beaucoup de missions, c'était intéressant. Ils avaient un peu ce principe. On ne demande pas l'argent, on compte sur Dieu et voilà, on prie et il pourvoit. Mais après, un peu en mettant en pratique Matthieu chapitre 6, mais même cette manière de fonctionner peut devenir un sujet de fierté. Donc Lloyd-Jones disait, un jour je prêchais, il y avait une missionnaire qui est venue pour présenter son œuvre, et pendant 10 minutes, elle a dit, voilà, je suis là, je ne fais pas d'appel aux dons pour les 15 000 euros que nous avons besoin pour les bâtiments, je parle pas de l'argent, je ne vais pas vous donner de mon argent, mais sachez que voilà. Et donc il a dit, bon, Elle a fait, tout en disant qu'elle n'appelle pas à l'argent, elle a appelé à l'argent, ce qui, pourquoi pas, mais il y a une manière de sonner la trompette sur le fait que nous ne sonnons pas la trompette. Tel sont le cœur humain. Plus tard, il parle, c'est aussi comique, je dirais, donc sonner la trompette, il y a aussi, il parle de feindre la tristesse. Ils prennent un air solennel, le visage tout triste pendant qu'ils jeûnent, mais c'est une tristesse feinte. Vous avez déjà vu quelqu'un qui fait semblant de boiter pour susciter la pitié, et puis quand vous regardez bas, il remarche normalement. Le problème, c'est que des fois, toute notre piété est faite ainsi. Et Jésus est pertinent. Il dit, si on enlève les expressions de foi et de pitié qui sont faites pour être vues, pour se donner bonne conscience, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste dans le secret? Quand on est tout seul, c'est ça qui intéresse Dieu. Quand vous êtes tout seul dans le secret, entre moi et ton cœur, là, c'est ça que je vois, c'est ça qui m'intéresse. Mais moi, je me demande, si on enlève tout ce qui fait pour être vu des autres, qu'est-ce qui reste? Est-ce qu'il reste assez de justice pour qualifier au royaume de Dieu? Et je termine avec ces règles du royaume, finalement, elles conduisent au seul fondement de la vraie justice. Au début de son message, c'est le premier verset que j'ai lu, Jésus dit, il faut une justice qui surpasse celle des scribes et des pharisiens pour entrer dans le royaume de Dieu. Une première lecture, c'est choquant. C'est la barre est très haute. C'est comme dire aux catholiques qu'il faut être plus saint que la mère Teresa pour entrer au ciel. C'est comme dire aux bouddhistes qu'il faut être plus zen que Bouddha pour entrer dans le nirvana. Et donc les gens devaient être choqués. Bon, après, quand on creuse un peu, quand Jésus commence à décrire la vie, la piété des pharisiens, la justice des pharisiens, on se rend compte que la justice des pharisiens était superficielle. C'est eux-mêmes qui vont ailleurs crucifier Jésus. Donc quand Jésus dit que votre justice surpasse celle des pharisiens, première lecture, ça semblait impossible. Deuxième lecture, on dit, c'est peut-être assez possible parce que les pharisiens ne sont pas si gentils que ça, après tout. Mais après, quand on regarde les règles que Jésus donne pour qualifier de citoyen de son royaume pour entrer au ciel, là encore, ça nous pose problème. On est tous cuits. Il dit, aimez vos ennemis. Pas juste les amis. Il dit, évitez la convoitise. Il dit qu'on va être jugé sur notre piété qui se pratique en secret. Là, s'il faut compter sur l'obéissance aux règles de son royaume pour entrer dans son royaume, ça va être très compliqué. Et beaucoup sont troublés par ce serment sur la montagne. Et c'est comme si Jésus dit, il faut mériter le salut en appliquant nos règles pour entrer dans mon royaume. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus termine sa prédication, son serment, avec un appel intéressant. À la fin, de plusieurs manières et par plusieurs images, il trace plusieurs voies pour nous qui concernent l'entrée dans son royaume. Il trace deux voies chaque fois pour entrer dans son royaume. En chapitre 7, verset 13, il parle de la porte étroite et la porte large. Ensuite, il parle du chemin étroit, chemin large. En verset 17, il parle de deux arbres, un arbre qui porte du fruit, un arbre qui ne porte pas du fruit, qui est jeté dans la géhenne. En verset 21, il parle de deux sorts éternels, ceux qui disent « Seigneur, Seigneur, tous n'entreront pas, certains n'iront pas, iront loin de moi, d'autres pourront entrer. » Et puis il termine avec l'illustration la plus marquante, verset 24, « Les deux bâtisseurs, les deux fondements, le sable et le roc, les deux maisons. » Donc, ces choix, ces appels, c'est la fin, c'est comme un appel, c'est comme un avertissement. Lequel des deux voies vous allez suivre? Lequel des deux portes? Lequel des deux chemins? Lequel des deux arbres êtes-vous? Lequel des deux prétendants à l'entrée êtes-vous? Et les deux maisons, lequel êtes-vous? C'est un peu la même idée chaque fois. Et il précise dans le parabole, dans l'image de la maison sur le sable et sur le roc, il précise que le roc, la maison sur le roc, représente celui qui écoute ces paroles que je vous dis et qui les met en pratique. Et le sable correspond à celui qui écoute, mais qui ne les met pas en pratique. Alors, on arrive à la fin du sermon sur la montagne et on va appliquer la méthode Coca. Notamment la première lettre, contexte. Quel est le contexte de ces appels à la fin du sermon sur la montagne, de ces deux manières de vivre, sur ces deux voies, sur ces deux maisons, sur le roc et le sable, la porte étroite et la porte large? À quoi correspond la porte étroite? À quoi correspond la porte large? À quoi correspond le roc? À quoi correspond le sable? Dans le contexte du sermon sur la montagne. Et si vous relisez le sermon sur la montagne, et si vous vous rappelez tout ce qu'on a dit ce matin, en fait, tout au long du sermon sur la montagne, Jésus a tracé deux manières d'être, deux manières de vivre l'éthique, deux manières de concevoir la loi. Mais ce qui nous étonne, c'est que la division entre large et étroite, entre sable et roc, ne se fait pas vraiment entre des gens bien et des gens pas bien, des gens religieux et des gens pas religieux. La division se fait, par exemple, entre les pharisiens qui comptent sur leur justice, et les enfants de Dieu qui se reconnaissent dans les béatitudes. Mettre en pratique ces paroles qu'il venait de dire, c'est vivre les béatitudes que nous avons étudiées la semaine dernière. Bâtir sa vie sur le sable, concrètement, c'est pratiquer une justice pour être vu des hommes. Choisir le chemin large, c'est pratiquer ces manœuvres d'évasion que nous avons vues. Je ralentis devant le radar et puis je fais ma vie autrement. Je parle aussi de les 10 commandements, il y a toute une façon d'être. Donc, bâtir sur le sable, c'est se convaincre que voilà, je peux avoir une justice moi-même, avec mes manœuvres, avec des motivations que je cache, qui suffit. Mais Jésus dit, cette voie, ce fondement ne va pas marcher. Si vous bâtissez votre vie sur une pratique de la justice pour être vu, un jour, ça va s'écrouler. Donc, j'ai envie de je conclus ainsi, et je pense que Jésus conclut son message ainsi aussi. Mettre les paroles de Jésus en pratique, choisir la porte étroite, c'est reconnaître que nous n'avons pas cette justice qui nous exige. C'est reconnaître que nous avons besoin d'une justice, une perfection qui ne se trouve pas dans nos cœurs. Nous avons besoin d'un fondement qui ne s'ébranle pas quand on retrouve juste dans le secret entre nous et Dieu. Et ce fondement, Jésus va le donner lui-même. Il va accomplir la loi, accomplir la justice. Il dit que il commence son message en disant « Ainsi, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. » Et il l'a accompli pour nous, de sorte que la loi de Dieu reste en place, en vigueur. Et même si nous n'avons pas toujours obéi la loi de Dieu, Jésus accomplit notre justice à notre place. Ce fondement de notre justice, c'est comprendre que Jésus lui-même a fait cette chose extraordinaire. Toutes les autres religions fonctionnent de manière ordinaire. Vous obéissez, vous êtes des bons, et Dieu vous laisse entrer. Mais l'évangile fonctionne de cette façon extraordinaire qui reflète le Père Céleste. Et quand Jésus dit qu'il veut que nous soyons un peu comme lui, différents des païens, il s'appuie sur l'image du Père Céleste qui, lui, aime ses ennemis. Et nous savons que Dieu a aimé ses ennemis en regardant à la croix, qui est le fondement de notre justice. Et lorsque notre vie est basée sur cet amour-là, cette grâce-là, cette croix qui nous rappelle que Dieu m'a aimé, moi, j'étais ton ennemi, maintenant je suis ton ami accueilli à ta table. Ça, c'est le fondement de la vraie justice. Et c'est ça qui est extraordinaire encore ce matin, que Dieu a été extraordinaire envers nous, différent de tous les autres dieux. Il a fait ce que les autres dieux ne font pas. Il a aimé ses ennemis, il les a voulus, il leur a donné une justice gratuite. Et quand j'ai ça dans mon cœur, alors oui, je deviens comme lui. Je commence à ressembler à ce Père Céleste. Je suis un enfant qui adopte cette même ADN pour, à mon tour, pratiquer une vraie justice, un vrai amour du prochain qui va jusqu'aux entrailles, qui va jusqu'aux racines. Et je peux vivre cette nouvelle éthique merveilleuse du royaume qui nous distingue de tout le reste. Que Dieu nous aide à la faire, que vous puissiez aussi vous connaître ce Père d'amour extraordinaire qui vous a aimé en tant qu'ennemi pour vous faire entrer dans son royaume et pour vous donner une nouvelle façon de vivre. Prions pour terminer. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette expression qui n'a pas son égal dans l'histoire du monde de du vrai amour, de la vraie éthique, de la vraie bonté. Jésus creuse de manière très profonde. Il enlève toutes nos excuses, il coupe court à toutes nos manœuvres, mais c'est pour produire des vrais cœurs changés qui regardent à toi, le Père qui nous a aimés, le Père qui a imagé cette bonté, cet amour qui a mis en place dans notre vie. Nous te prions que ce que Jésus nous demande devienne une réalité pour nous. Nous te prions de nous aider à prendre à cœur ces exigences. Mais nous avons besoin de ta force, de ta grâce pour les vivre. Mais nous croyons que, puisque tu es le Dieu Tout-Puissant, cela devient possible d'avoir des cœurs radicalement transformés par l'amour, pour la grâce, pour ensuite les tendre vers d'autres et marcher dans les traces de notre roi. Nous te remercions pour ce culte que nous avons pu t'offrir et nous te prions de continuer à nous conduire dans tes voies au nom de Jésus-Christ. Amen.